Bienvenue au Sermon d'Hippocrate, le podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé, mais ne se trouvent pas en pharmacie. Que ce soit l'alimentation, le sommeil, la méditation ou l'activité physique, tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. Alors aujourd'hui j'accueille Alvaro Madrazo, fondateur de Olifat, un passionné de cyclisme, vététiste dans l'âme, mais qui a dû se résoudre à faire un petit peu plus de route maintenant qu'il vit à Lille. Bienvenue Alvaro.
Bonjour Ben, ravi de ton invitation.
Merci de l'avoir accepté. Donc, on s'est retrouvé en contact en partie à cause d'un ancien invité de l'émission, Olivier Maria, donc Low Carb Frenchy. En fait, moi, j'avais repéré Olifat un petit peu avant de le rencontrer déjà parce que je cherchais des produits particuliers pour ma pratique sportive. Mais bon, voilà, si ce n'est que j'avais noté que ce produit existait, j'avais pas forcément creusé plus le sujet que ça. Et puis, on en a reparlé avec Olivier à un moment. Et lui m'a recommandé en fait de prendre contact avec toi du coup pour t'avoir sur l'émission pour qu'on puisse parler. Et tu m'as donc gentiment envoyé un petit échantillon de ce que produit Olifat pour que je puisse avoir un peu une idée de ce que c'était les produits. Comme ça, voilà, maintenant que j'ai fait un petit essayage, j'ai une meilleure vision des trucs. Mais je voulais qu'on commence un petit peu par parler de toi. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, ton parcours en fait qui t'a amené à arriver ici aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Ben, donc la première chose, moi je suis mexicain. Mm-hmm. Voilà, l'accent, ça me délate. Et moi j'ai fait un parcours. Bon, j'étais au Mexique passionné déjà de vélo, et en étant un petit pays dans les booms de VTT. J'étais membre de l'équipe nationale dans les années 80. J'étais en 94 au championnat du monde,
ouais,
aux États-Unis. Dans cette époque, on faisait un peu tout. On faisait la descente, on faisait les cross-country. J'aime bien dire que c'était la belle époque, l'époque dehors du VTT. C'était plutôt l'ambiance plutôt que les niveaux. Une fois que j'ai passé en élite, voilà, je me suis rendu compte qu'effectivement, là, il a vraiment un cap, et surtout avec les pays européens.
Ouais.
Vraiment un choc et une ouverture des yeux et d'esprit, et de dire, voilà, c'est quoi les sports professionnels. Voilà, à ce moment-là, j'ai commencé l'université.
Ouais.
À Mexico. J'ai fait un an et demi sur nutrition et technologie d'aliments. Avant de décider, changer pour faire design produit. Donc, tu vois, depuis longtemps que j'ai cette curiosité sur la nutrition.
Ouais, visiblement.
Donc, après avoir fini l'université et mon diplôme, j'ai cherché surtout un style de vie, une qualité de vie. Et j'ai commencé à chercher des universités pour avoir l'opportunité de sortir de Mexique. J'avais toujours cette vision, cette curiosité, cette âme de voyager et de voir des autres horizons. Et je me suis retrouvé à Grenoble, à l'école de commerce, et que vraiment l'école, c'était une super expérience, mais surtout, ce que je cherchais, c'était la montagne.
Il y avait un échange avec l'école où tu étais au Mexique, enfin, comment est-ce que tu as atterri à Grenoble? Parce que de toutes les villes du monde où il y a des montagnes, je veux dire, Grenoble c'est sympa, mais enfin, comment est-ce que tu es arrivé à Grenoble?
C'était un master 2, j'ai contacté l'université, j'ai reçu une bourse pour arriver. J'avais deux ou trois options des autres universités, un à Milan, aussi en Angleterre à Southampton. Mais il avait deux choses qui m'attiraient déjà. J'ai parlé par français. Donc, ça m'attirait déjà d'apprendre notre langue. Et une fois que j'ai vu la ville avec les verts corps d'un côté, et c'était vraiment quelque chose qui a fait mon choix. Ouais. Vraiment, c'était ça qui a fait mon choix. Ça, c'était en 2003. Et après ça, je suis resté pas tout le temps en France, parce que j'ai travaillé par le grand distributeur de sport, bleu et blanc.
Ouais.
Et donc, avec cette entreprise, j'ai fait pas mal d'émissions. J'étais 300 au Portugal,
ouais,
sous l'assemblage vélo, donc en charge de deux gros fournisseurs vélo. Et après, je suis revenu sur l'île. en France et à Lille, précisément, en 2010. Donc, pendant tout ce temps-là, effectivement, les sports et les vélos, ça a resté toujours à côté de moi. C'est mon bastion, c'est vraiment mon pilier qui est la constante
Ouais.
pendant tout ce temps-là.
Donc ça a toujours été une pratique loisir en fait pour toi. Après, enfin passer la phase compétiteur quand tu étais justement dans l'équipe nationale au Mexique, toi t'as gardé ça comme un loisir toute ta vie en fait.
Oui, j'ai gardé ça comme un loisir. En rentrant en France, donc à Lille en 2010, j'ai commencé à faire un peu de triathlon. J'ai fait quelques triathlons olympiques. J'ai fait un 70.3. Donc un peu plus sérieux, mais rien de spectaculaire. Donc j'ai commencé à augmenter les distances, à être un peu plus sérieux dans l'entraînement. Et cette partie, c'était jusqu'à 2018, c'était 2017, que j'ai rencontré une personne qui s'est créée, que c'est quelqu'un qui fait beaucoup la longue distance en Écosse. Et il m'a parlé des, voilà, c'était quoi, il venait de faire la Tour Divide, c'était dans les Bike Europe, la messe des vélos, où t'as tous les fournisseurs de tout. Et la façon dont je la voyais parler de Tour Divide, donc la traversée des États-Unis par par les Rocky Mountains, ça m'a complètement ça m'a bouleversé. Je dis faire 20 jours de vélo et qu'est-ce que ça? Vélo, manger, dormir. Donc je suis rentré de ce voyage et tout de suite je commence sur Internet à chercher et j'ai trouvé la French Divide. Donc je contacte Sam Vécu et tout de suite je me suis inscrit. Voilà, c'est l'inscription, c'est décembre à 6 h du matin, on se réveille pour avoir une place. Et là, ça, l'aventure de la longue distance commence.
C'est quoi comme distance, la French Divide?
Et 2 300 et quelques kilomètres, donc
Ouais,
c'est des
c'est
vraies dunes.
sacré.
C'est des vraies dunes jusqu'à Pays Basque, même bien. Et cette traversée, c'est je pense que les records, il doit être presque un peu moins de 9 jours. Et la limite, c'est 15 jours. La particularité, c'est que c'est beaucoup de VTT. Et même pas gravel, c'est vraiment des VTT. Certaines parties, surtout au Massif Central et après la partie Dordogne, tout ça, c'est vraiment des techniques. Et moi, j'adorais. C'était une expérience incroyable. Déjà, d'être déconnecté et de vraiment souffrir dans un sens des plusieurs jours, c'est super intéressant comment un voyage intérieur, quoi. C'est vraiment une expérience.
Après, j'y connais rien en VTT, mais je me dis que, enfin là, ça fait à peu près quoi? Ça fait à peu près 250. Donc, si tu le fais en 9 jours, hein, fait à peu près 250 bornes par jour en VTT. Voilà, j'y connais rien en VTT. Je me dis, en route, ça me paraît pas démentiel si tu as un certain niveau. Mais par contre, j'imagine qu'en VTT, ça doit être beaucoup plus fatigant, en fait.
En fait, ça, juste pour comparer, je pense qu'une journée, si tu vois la transcontinentale, il y a des cyclistes qui sont capables de tenir entre 25 et 35 des moyennes pendant un jour. Une journée de celui qui gagne, un des journées difficiles, donc en Massif Central, il va faire une moyenne des 10-11 km à l'heure.
Oui, bah c'est sûr, c'est pas la même chose.
Donc, en termes de fatigue, c'est assez différent. Après, c'est varié parce qu'il y a des étapes, surtout ici dans le Nord, où tu peux avoir des moyennes beaucoup, tu peux avancer beaucoup plus. Et si juste l'organisateur Samuel lui dit, effectivement, si tu veux arriver dans 15 jours, il faut faire au moins les premières 2 jours plus de 200 km. Et après, tu peux faire 170, 180, mais effectivement, c'est des 16, 17, 18 heures sur le vélo.
C'est là que ça me paraît impressionnant parce qu'en fait je me suis rendu compte que sur le VTT, moi mon sport c'est plutôt la course à pied, donc forcément des références VTT j'en ai pas trop, mais je me rends compte que finalement en VTT, sur des terrains techniques hein, j'entends, bah un VTT ça va pas forcément beaucoup beaucoup plus vite qu'un coureur à pied. surtout parce que bah, le coureur à pied va faire généralement les montées beaucoup plus vite, même s'il va se faire rattraper sur au niveau de vitesse au niveau des descentes. Donc finalement, on n'en est pas si loin, et j'imagine juste, du coup je le transpose, je me dis, putain, 250 bornes par jour à pied. Bon, après l'impact n'est pas le même, hein, mais j'imagine 250 bornes à pied sur quasiment, ouais, en gros, quasiment une dizaine de jours. Enfin, ça fait ça, je me vois mal le faire. Je connais aucune course comme ça. Et je pense que ça serait un peu du suicide, mais surtout qu'on peut pas les faire en fait sur une journée, hein, les 250 bornes, hein, soyons honnêtes. Hein, mais
dans les 2300, on a pas loin des 28 000 mètres de dénivelé. Donc
C'est ça. Quand t'as des gros dénivelés comme ça, c'est sûr que. Bon, après, voilà, quand je dis que c'est comparable, bien sûr, on n'est pas du tout sur la même chose. C'est-à-dire que sur un VTT, c'est possible de faire 250 km dans une journée, alors que à pied, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible. Ou en tout cas, c'est clairement pas, si tu le fais sur une journée, c'est sûr que tu les enchaînes pas le lendemain. Donc, donc j'imagine bien, ouais, ça devait être assez sympa comme aventure. Donc, ça, c'est dans quelle année que tu faisais ça?
Ça, je l'ai fait en 2018. Hein.
2018,
oui. C'était en préparation de cette course que j'ai découvert les régimes cétogènes. Mm-hmm. Et la raison pour laquelle que j'ai commencé à faire des recherches, c'est que moi, j'ai toujours été très sensible à faire des hypoglycémies.
Ouais.
Même quand j'étais dans l'équipe en junior, en adolescent, c'était chaque fois que j'enchaînais des travails des fractionnés.
Ouais.
Ça m'arrivait très souvent de finir en vomissant d'un côté. Et ouais. Donc, je comprenais pas trop. Dans cette période des années 90, c'était, ah oui, c'est parce que t'as pas mangé les matins, il faut que tu prennes ton yaourt avec des bananes et du miel. Et les plus de sucre que je mettais dedans, les pires que j'étais après.
Ouais. Mais t'avais jamais fait la connexion, quoi, c'est ça?
J'avais pas fait la connexion. Aujourd'hui, que je les vois en recul, je vois que je suis très sensible, et c'est des familles. Je me souviens de mon grand-père avoir toujours un bonbon dans la voiture ou une petite canette de Coca-Cola. Mm. Et parfois, quand on partait en autoroute, parfois, il se mettait de côté et il prenait la Coca-Cola et je ne comprenais pas. Et c'est ce que j'ai les sucres barres, quoi. J'ai une hypoglycémie. Et maintenant que j'ai fait la connexion, je me rends compte déjà... Déjà au Mexique, c'est intéressant parce que je ne sais pas si c'est à cause de la consommation de soda ou c'est des profils génétiques, mais les taux d'obésité au Mexique, c'est les per capita, c'est les plus importants au monde.
C'est ce que j'avais lu aussi.
Et donc, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ma famille, ils font toujours des sports, pas à niveau compétition, mais toujours actifs. Et moi, j'ai vu mon père des 40 à 50 ans doubler les poids, quoi. Et je me disais, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est effectivement, oui, l'eau, surtout, c'est les boissons. Parce que ce n'est pas que les sodas et les coca. On a beaucoup de fruits. Et c'est très commun de trouver à midi, déjeuner avec des produits. C'est même pas des produits, hein, c'est des fruits naturels, mais toujours avec des oranges. De la limonade, toujours, avec quelque chose qui vient sucrer les boissons.
On sait qu'il y a des populations qui sont plus sensibles, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de le décrire, mais en tout cas, globalement plus sensibles en fait, à un apport de sucre. Pour différentes raisons, hein, la plupart du temps. Le cas classique, c'est la Polynésie, ça on en parle souvent. Les Polynésiens ont beaucoup de problèmes d'obésité, et ce que j'ai lu, c'est que la raison derrière ça, c'est que la population qui a vécu là, en fait, qui a été un peu sélectionnée par juste les contraintes de leur environnement, a été des gens qui étaient très efficaces en calories. Donc le fait de tout d'un coup se retrouver sur la vie moderne à avoir une abondance totale de calories, bah, ça fait que leur corps n'arrive plus à le gérer. En fait, c'est juste trop. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et donc c'est peut-être le cas dans ta famille, c'est peut-être aussi le cas sur la population mexicaine, enfin ça je sais rien, hein, mais Mais il y a peut-être un peu de ça aussi qui joue. Hein. Je pense que
Oui,
dans différentes
sûrement.
parties du monde, tu vois des choses comme ça, en tout cas.
Sûrement. Et moi, ça fait à un moment donné, quand j'ai commencé sur les régimes, j'ai acheté, tu sais, les lancettes pour mesurer les cétones, mesurer les taux de la glycémie. Et je me rends compte que, par exemple, pour moi, les maïs, parce qu'on mange beaucoup des tortillas à base de maïs, c'est pas les mêmes maïs qu'ici, c'est pas les maïs jaunes, c'est les maïs blancs. Mais j'ai pas des pics glycémiques et ça, ma glycémie, ça reste très, très, très stable. Par contre, les pommes de terre, là, pour moi, c'est catastrophique. Pommes de terre et les pains blancs, c'est catastrophique. Là, je, bien sûr, c'est. Mais je pense que culturellement, on n'est pas habitué à ça, hein, même pas les riz.
Mais je pense que ça, sur les différentes populations du monde, en fait, on développait juste, enfin, pas forcément une habituation, mais c'est, en gros, on a dans certaines populations, dans certains pools génétiques, on a juste privilégié certains trucs par-dessus d'autres, ou qui ont été favorisés par l'environnement, et du coup, effectivement, c'est logique que si tu viens d'une descendance qui a plutôt été exposée à du maïs comme base d'alimentation que de la patate, par exemple, et bah du coup, effectivement, tu gères mieux. Après, il peut y avoir aussi juste des facteurs externes, c'est le fait que t'aies mangé plus de maïs dans ta vie que de la pomme de terre. Donc en fait, tu t'es tout simplement habitué, en supposant que du coup tu pars du même principe, enfin du même point de départ en fait génétique. Je sais pas ce que ça pourrait être, je suis pas du tout généticien, mais mais c'est intéressant de le voir comme ça. Enfin, c'est surtout de l'avoir découvert parce que les sujets de glycémie, donc ça, on en a parlé plein de fois dans le podcast. On est, je pense que bon, aujourd'hui, on n'apprend plus à personne que le sucre, c'est un problème pour la santé, dès lors qu'il est consommé en excédent. Et l'excédent, c'est, enfin, le seuil minimal est quand même assez bas de ce qu'on a besoin. Mais surtout, la notion même de juste de glucides, c'est-à-dire que là, tu nous parles de pommes de terre, t'es pas en train de nous parler de sirop de glucose, t'es pas en train de nous dire, lorsque je m'enfilais trois canettes de coca, non, t'es en train de nous parler de pommes de terre. C'est le fait que les glucides, en fait, peuvent jouer ce rôle. Et quand tu vois que le pain blanc, la baguette blanche, par exemple, française, elle a un indice glycémique de, je sais plus combien, je crois que c'est quasiment 70 ou un truc comme ça. Bref, enfin, faudra vérifier le chiffre parce que je m'en souviens plus, mais c'est élevé. Je veux dire, c'est élevé, ça s'assimile super vite. Et pareil pour certains pains industriels dans la même veine, quoi. Donc, il y a quand même, c'est pas juste une question de sucre, il y a des glucides en fait qui s'assimilent aussi vite que le sucre, mais si on devait regarder la composition, on verrait zéro sucre, mais que des glucides. Et on va se dire, ah bah c'est bon, il n'y a pas de sucre, donc du coup on s'en inquiète pas. Et on dit, ah tout va bien, mais en fait les glucides, ces glucides-là, ils ont un indice glycémique, donc une capacité d'absorption qui est très très haute, et donc c'est comme si on s'enfilait des carrés de sucre.
Ouais. Mais t'es complètement raison parce que c'est très intéressant quand on parle de sucre, on a plutôt un consensus. Oui, on va réduire les sucres parce qu'on pense que c'est juste les sucres blancs qu'on consomme à table. Mais quand on dit non, mais les glucides, en fait, les corps, parfois, ils ne peuvent pas faire énormément de différence entre un et l'autre, surtout avec les jus de fruits, par exemple, ou les fruits. Et là, on a un peu plus des points de blocage, de dire attention, mais pourquoi glucides, oui, et sucre, non. Moi, j'aime bien dire que finalement, et surtout, le sucre ajouté, parce que nous, on a, et sur les valeurs nutritionnelles, on met sur les produits. Il a autant de glucides, dont le sucre. Donc là, c'est la législation en Europe, et on vient mettre les sucres ajoutés sur les produits. Et ce que j'aime bien dire, c'est que les corps, il ne fait pas la différence si tu as ajouté les sucres dans les procédés ou s'il était déjà dans les aliments. Un bon exemple, c'est les dattes. On peut avoir une barre d'espoir avec des dattes, et qui ont dit pas des sucres ajoutés. Mais l'indice glycémique, c'est très haut. Et aussi, les niveaux de glucides dedans, c'est très élevé.
Tout à fait. Et puis
Compliqué.
même quand tu regardes la datte, t'as énormément de sucre dedans. Mais comme on en avait parlé avec Benoît Nave, qui du coup enfin qui est un des fondateurs de Baou, eux, parce qu'ils voulaient utiliser la datte comme base, ils sont allés sélectionner du coup une datte qui avait un indice glycémique un peu plus bas. Parce que certaines ont un indice glycémique super élevé, tu vois, parce que ils étaient bien conscients de ce problème. Mais bon, en tout cas, on part un peu sur des analyses produits là, mais revenons un petit peu à ton histoire. Donc, tu t'es intéressé au céto parce que tu faisais des hypoglycémies, mais c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'en a parlé, qui t'a dit, attends, si tu fais des hypos, essaye autre chose. Enfin, t'es tombé là-dessus, comment?
Non, je pense que la première fois que j'ai entendu parler des régimes, et c'était même pas dans des semaines, c'était la revista, les magazines Outside. Il y avait un article sur les chiens qui tirent les traîneaux en Alaska, dans les Iditarod. Et j'ai trouvé un article super intéressant qui parlait en fait, les chiens, ils prennent des protéines et des gras, 60% des gras. Et après, des lipides, ils faisaient des mesures de glycogène dans les muscles. Et en fait, il n'avait pas de variation. Donc, ça veut dire qu'il avait deux choses. Il arrivait à faire les plans de ses réserves de glycogène dans les muscles assez rapidement, dans son nuit. Et de l'autre côté, il s'était très, très, très efficace dans l'utilisation de la filière lipide quand il faisait l'effort. J'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que c'est il y a une quinzaine d'années et je l'ai gardé en tête. Et après, quand j'ai commencé à faire pour la longue distance, je sais pas, ça doit soit un podcast, soit un article, quelqu'un parlait de régime cétogène et je suis tombé sur les livres de Finney et Bolek, deux docteurs américains.
Je crois
Ça
qu'on en a parlé
s'appelle
à l'une
Low
des émissions.
Carb Performance. Et effectivement, j'ai commencé à lire ça et j'ai commencé à m'intéresser. C'était quelque chose de nouveau et super intéressant. Déjà que moi, j'avais vu un changement quand je suis arrivé à vivre en France. Pratiquement, j'ai coupé toutes les sodas, les jus de fruits. Et j'ai vu déjà un changement sur moi. Je l'avais vécu. J'ai dit, il y a quelque chose qui est lié au sucre que j'ai consommé avant. Et donc là, 10 ans après, je tombe sur cette livre de Finney et Bolek et je commence à expérimenter. J'ai fait 6 mois assez strict où j'ai trouvé des choses vraiment très intéressantes. La première chose que j'ai sentie, c'est que j'avais plus faim à midi. Je prenais mon petit déj. Bon, c'était les déj à l'américaine les matins avec des œufs, des bacon. Et après, à midi, j'y arrivais jusqu'au soir, sans avoir besoin de manger d'autres choses. Ça, c'était la première chose qui m'a complètement marqué. Parce que, une autre chose qui m'est arrivée, c'est qu'avant quand j'ai commencé à avoir faim, j'ai changé d'humeur. Et je me souviens, mes copains à l'école, ils me disaient, oh, écoute, il faut que tu manges quelque chose parce que tu deviens insupportable. Et là, je commence à faire beaucoup de liens dans ma vie. En disant, écoute, je pense qu'il a quelque chose avec moi, que les sucres, il est en train de déclencher et que c'est pas très sain. Donc, effectivement, après 6 mois, et c'est juste les 6 mois avant la French Divide, que je me rends compte que c'est quelque chose que c'est très adapté. Même si j'adore, j'ai encore une petite faiblesse pour. Parfois, je veux un chocolat, par exemple. Maintenant, je prends des 70-80% des chocolats noirs, mais il y a toujours cette petite faiblesse parce que j'aime bien. Mais j'arrive à être plus ou moins en low carb, comme on dit. Donc ça m'arrive sur la French Divide, où je me rends compte que tous les produits dans les marchés, parce que j'ai pris dans mon sac et j'ai dit, écoute, il faut que j'ai des nourritures pour au moins 24 heures ou 36 heures, qu'est-ce que je vais mettre? Et je vois que tous les produits existants dans les marchés, c'est glucides, 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 glucides. Tout, 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 tout. C'est la première fois que j'ai dit, écoute, il y a une opportunité aussi de faire quelque chose et de présenter une alternative aux produits existants.
C'est un peu comme ça que moi je me suis retrouvé à entendre parler de Olifat, hein, justement parce que je me suis posé les mêmes questions. À l'échelle de la course à pied, pourquoi? Parce que le premier ultra que j'ai jamais fait, j'étais au Royaume-Uni et Et quelqu'un avait amené du coup des petites pochettes de beurre de cacahuète. C'est un truc qui était relativement commun sur le marché à l'époque. Là-bas, en France, je crois que ça n'existait pas. Mais enfin, en tout cas, je ne connaissais pas. Et du coup, je découvre ça et je me dis, eh, c'est quand même pas con, tu vois. Enfin, avant, moi, je partais avec des, je partais, quand je partais faire des courses, je partais avec des, carrément juste des sachets de noix parce que c'était le truc le plus simple en fait pour avoir un apport lipidique du coup pas trop sucré. Je mettais toujours, vu que je faisais souvent des efforts intenses à ce moment-là, je faisais encore plutôt du court. Je mettais souvent des petits fruits secs, des trucs comme ça parce que j'appréciais justement cet apport de glucides et puis j'avais pas forcément, je faisais pas forcément du 100% low carb à cette époque-là. En tout cas, c'était plus modéré quoi. Mais et du coup, en tout cas, après cette découverte des beurres de cacahuète, je me suis dit, putain, ça serait sympa d'avoir ça, toi, enfin, quand je pars faire des compètes, hein, d'avoir un truc facile à emporter. Donc j'avais fait la recherche où en France ça n'existe pas, ok, il faut les faire importer des États-Unis, enfin bref, c'était compliqué. Ou alors du UK, du coup, tu payais des frais de douane. Alors ça commençait à faire cher le sachet, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas trouvé ça en France. Du coup, moi, je me suis posé la même question, je me suis dit, bah, ce serait sympa qu'il y ait un truc au moins sur le marché. Enfin, c'est pas non plus. Mais enfin, c'est encore quelque chose de différent. Parce que toi, tu en es venu à faire un produit carrément autre que ce que moi j'avais en tête. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imaginais quand j'ai découvert ton produit. Je me dis, ah ok, ça y est, c'est des beurres de noix. En fait, vous avez fait encore un truc un peu différent. Mais ça, on va y venir. Raconte-nous un petit peu de ton expérience du coup de la French Divide. Où justement, du coup, bah, tu te lances sur cette, c'est quand même une grosse, grosse course, un énorme volume, et tu te lances là-dessus, du coup, en low carb, c'est ça?
Je n'ai pas entendu le low carb les premières 48 heures et j'ai fait une grosse erreur. Tu vas voir, si vous faites, c'est l'expérience, hein, on apprend. C'était la canicule. Et donc, on part première journée. Et dans un supermarché, j'ai m'arrêté pour acheter de l'eau. Et j'ai dit, écoute, je vais manger quelque chose. Et je vois un saumon. Je dis, ah bon, je les mange tout de suite. Mais en sortant des magasins, il a des autres. Parce que c'est très long, mais c'est quand même l'état d'esprit, même si c'est pas une course, mais l'état d'esprit, c'est une course. Donc, tu vois les autres cyclistes monter et qu'il part. Donc, moi, je monte dans les vélos, je pars. Et les saumons, ils restent dans mon sac, c'est dans quelques petites heures à presque 40 degrés. Et je m'arrête quelques heures après. Et je dis, bon, je vais les manger. Hein. Et tout de suite, j'ai senti, c'était très rapide. J'ai mangé même pas la moitié. Mais tout de suite après, je commence à vomir. Comment ça se met, c'était mal. C'était vraiment. Et j'ai dit, écoute, je peux pas abandonner, quoi. C'est dur, quoi. Je peux pas. Donc là, j'ai continué comme ça. J'ai avancé 20 km du bon lycée. Finalement, voilà, j'arrive au camping, je m'endors. Je ne pouvais rien manger. Donc, pratiquement, là, c'était comme si j'étais à Jean. Je dors. Le lendemain, je me sens un peu mieux. Donc, je repars. Et c'était jusqu'à midi que j'ai mangé à nouveau. Donc, là, j'ai pratiquement j'ai fait un peu plus de 30 heures sans manger. Et là, il faisait 40 degrés et j'arrive à un bar et moi, j'ai décidé, j'ai dit, écoute, là, je me sens très, très faible et j'ai commencé à prendre un peu de glucides pour pas rester qui est sur keto. Et donc là, ça que j'ai fait, c'est les matins, j'ai essayé de pas manger de glucides pour le moins possible. Donc, j'arrivais, j'achetais des jambons où possible, des choses comme ça. Et l'après-midi, j'ai mangé des glucides, notamment les bars. J'arrivais, je prenais une bouteille d'eau minérale, un Coca-Cola, un Diavolo. Et les trois, ça passait. Juste pour te dire, les jours qu'il a fait plus chaud, que c'était le troisième jour, j'ai vu 12 litres d'eau. J'ai pas allé aux toilettes. Ils sont partis et c'était incroyable. Et tout le monde était dans un état similaire. Cette année, la French Divide, cette année, c'était aussi c'était bien, bien, bien chaud. Bon, comme ça, j'ai fait toutes les restes jusqu'au checkpoint 3. Donc, au checkpoint 3, c'est 2000 km. Et c'est le site. et j'étais en journée 12. Et j'avais un bol des Biarritz, les retours, les lendemains. Il manquait 300 km. Et c'était soit je fais d'un seul trait, ou soit je prends un train. Donc là, on checkpoint 3, j'ai pris les trains des retours. J'ai dit, écoute, pour une première expérience, c'est déjà fait. Ils ont finish business, donc je pense que 2021, ça va se refaire. Et je suis rentré déjà avec une expérience que c'est énorme, ce type de course. Oui, la partie physique, c'est dur, mais la partie mentale, c'est là que ça se joue. Et en fait, ma problématique, c'est pas pourquoi j'ai décidé de prendre les trains à la fin en journée 12. La question, c'était pourquoi les journées 12, j'étais pas déjà à Mendiant. Et on commence à faire notre histoire derrière et on dit, ah oui, cette journée-là, j'étais fatigué, je me suis arrêté à 20 h quand j'aurais pu pédaler 3 heures de plus. Ah, cette erreur qui ça m'a coûté, je sais pas, 3, 4 heures. Et on commence à voir que les petites décisions qu'on prend pendant 10, 11 jours, ça nous, c'est pas une erreur, c'est beaucoup de petites décisions qu'on prend. Et bon, je pense que la vie, c'est pareil. C'est dans la vie, parfois, on fait pas des grosses erreurs, des grands succès. C'est les petites décisions qui changent tout.
C'est vrai que c'est les épreuves d'ultra, c'est souvent de très bons enseignements de vie, et tu te rends compte, enfin, c'est des choses du coup que tu peux un peu appliquer, c'est-à-dire que c'est comprendre que bah parfois quand tu vas pas bien, bah si en fait tu t'accroches un petit peu, bah derrière ça ira mieux. Si parfois t'es au fond du gouffre et tu sais juste que le seul truc qui est important, c'est de continuer d'avancer vers l'objectif, parce que de toute façon en soi, tu peux pas changer le fait que ça va pas bien. Je veux dire, quand ça fait, bon, je mets les choses à mon échelle, mais quand ça fait, je sais pas, 18 heures que t'es en train de courir, bah, du coup, je veux dire, y a rien qui va faire disparaître la fatigue. De toute façon, t'es au milieu de nulle part, donc à part mettre un pied devant l'autre, y a pas 40 possibilités. Et du coup, c'est juste partir du principe que bah, écoute, je vais continuer à avancer vers l'objectif avec ce que je peux faire maintenant. Peut-être que je peux pas aller aussi vite que ce que j'avais prévu. Mais au moins, tu vois, je me donne la possibilité, en fait, d'aller mieux tout à l'heure. Parce que si je reste là, de toute façon, ça va juste être pire. Ça va être de pire en pire. Parce que je peux pas m'arrêter ici. Donc, je continue, et puis, je me donne la possibilité d'aller un peu mieux. Et après, c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est beaucoup dans la tête, en fait. Ça m'est arrivé pas mal de fois, personnellement, d'arrêter des courses comme ce que tu décris, hein. Pas du tout pour des raisons physiques. C'est-à-dire que le lendemain, pas une crampe, rien, tu vois, enfin, intact. Mais dans ma tête, j'y étais pas. Et du coup, bah, c'était pas possible, ça paraissait infranchissable. Et passer ces barrières mentales, en fait, c'est vachement important. Il y a un truc qui est intéressant, quand même, dans ce témoignage aussi, je trouve, c'est le fait que tu t'es lancé sur cette aventure. Bon, le coup du saumon, moi, ça me fait beaucoup rire parce que je suis sûr que j'ai déjà fait des conneries comme ça en plus. Plutôt avec des saucissons, mais. Jusqu'ici, j'ai jamais eu d'accident, mais enfin, on sait jamais, hein. C'est vite arrivé. Mais je pensais surtout au fait que t'avais fait ton adaptation cétogène sur une période de 6 mois. 6 mois, c'est relativement court, en fait. On se rend pas compte. C'est-à-dire que oui, le corps s'est adapté, mais c'est pas encore forcément devenu une normalité. C'est-à-dire que c'est encore un peu nouveau. Et t'es encore en train de transformer un peu ton corps à ce moment-là, donc c'est sûr que tu en as demandé beaucoup. Assez tôt dans ton processus. Et en plus, sur un effort très très intense, moi je sais que j'ai découvert ça plus tard, mais le fait de démarrer avec un effort super intense, en fait, enfin, les efforts très intenses au début, j'arrivais pas à les faire, en fait, il me fallait un apport glucidique, j'en avais vraiment besoin. Et c'est que plus tard que j'ai été capable de faire des efforts importants, sans le moindre apport glucidique. Mais beaucoup plus tard, hein, pas que je me sois testé, tu vois, régulièrement pour savoir, c'est juste, je me suis rendu compte des années plus tard que désormais je pouvais le faire. Mais avant ça, je sais que c'était, enfin, j'y arrivais pas, en fait, je me retrouvais à plat.
Non, ça m'arrivait aussi, hein. En préparation, quand ça fait 4 ou 5 mois, je sors en sortie en vélo de route, il y a un groupe qui me passe, et j'ai dit, bon, je vais me coller, ça roule fort, oui, mais Et c'est marrant parce que je pense que j'ai fait un peu plus de 80% de ma VMA, 80, 90. Et effectivement, 40, 30, 40 minutes après, j'étais sec, j'étais à plat. Et il faut faire attention. Je pense que tu l'as parlé déjà dans d'autres podcasts. Les régimes cétogènes, il est au low carb, il est super intéressant. Mais ça dépend de l'objectif, ça dépend de l'intensité qu'on fait, ça dépend comment on est adapté, à quel moment on change d'une filière à l'autre. Et effectivement, si on va faire des efforts très courts, très puissants, c'est toujours bien d'être adapté à brûler la filière lipidique. Ça, je suis convaincu, peu importe l'effort, parce que ça va permettre d'avoir des réserves de glucogène plus frais, plus complètes, de ne pas les toucher jusqu'à qu'on passe à certains seuils, et en maintenant les ratios à la fin, d'avoir plus de puissance. Mais effectivement, ça dépend beaucoup de qu'est-ce qu'on veut faire, quoi, et de notre objectif.
Bah, ce que je, enfin, en gros, moi, j'identifiais deux pratiques. Donc, soit pour les athlètes hein, qui pratiquent plutôt, enfin, on va dire cétogène et low carb, parce que, enfin, on en parlait un petit peu avant de démarrer. Moi, je suis pas forcément super fan de la terminologie cétogène, parce que pour moi, ça correspond à un régime, et ce régime, c'est un protocole assez précis, alors qu'en fait, il y a beaucoup de variations possibles. Mais qui pourtant reste tout à fait dans l'esprit du truc, mais c'est pas exactement la même chose. Mais donc ce que je dans les athlètes low carb, donc faibles qui pratiquent leur activité avec peu de glucides, j'ai vu deux familles. En gros, tu as ceux qui développent en fait leur filière énergétique lipidique, donc en fait qui sont ultra dépendants du gras, mais en abord des compétitions, ils vont intégrer plus de glucides dans leur alimentation en étant assez attentifs. À l'indice glycémique pour éviter trop de production d'insuline, mais le but quand même c'est de stocker en fait du glycogène, donc ils veulent développer ces réserves, et pendant l'effort ils vont utiliser des sucres simples en parallèle du coup de leurs propres réserves. Donc on peut prendre l'exemple peut-être le plus connu d'athlète dans ce registre-là, je pense que c'est Zach Bitter, qui est du coup un coureur à pied ultra distance qui a je sais pas, il a plein de records. Il a, je crois, le record du 100 miles trail. Il a le record américain du 100 miles piste. Il a le record du monde du 100 miles tapis de course. Enfin, plein de trucs. Enfin, je crois que c'est ça. Faut aller vérifier sur son site hein, si vous voulez les détails. Mais bref. Et lui, je sais que lorsqu'il parle de son alimentation, il explique en fait qu'il a ce protocole en fait vis-à-vis des compétitions où il intègre les glucides. Mais par contre, et pendant l'effort, utilise plutôt des sucres simples, du coup, pour accompagner sa pratique. Ensuite, il y a une autre catégorie que j'ai vue aussi bien chez les athlètes d'endurance que chez les athlètes d'intensité. C'est plutôt d'avoir un apport protéique élevé et en gros d'avoir une surconsommation protéique. Et cette surconsommation, en fait, fait que le corps réutilise une partie de ses protéines pour faire du glucose, et donc ce glucose devient glycogène, donc en fait par leur surconsommation, et j'ai dit surconsommation un peu entre guillemets, mais cette surconsommation protéique du coup devient du glycogène, et donc ils n'ont pas besoin de se tourner vers du coup des sources de glucides pour faire leurs réserves, parce qu'ils savent, voilà, ils la renouvellent d'eux-mêmes. Et ça je l'ai plus vu quand même chez des athlètes de sport intense. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des réserves de glycogène aussi, peut-être aussi élevées, je sais pas. Enfin, encore une fois, hein, j'imagine que c'est plus complexe que ça, mais l'idée c'est que, bah, de toute façon, vu que leurs efforts vont durer que quelques minutes à tout casser, en fait, de toute façon, ils vont épuiser leurs réserves et ça, autant avoir un maximum, vu que les efforts sont très intenses, ils vont épuiser leurs réserves plutôt, autant avoir du coup un maximum de carburant à côté. Moi, c'est les deux familles que j'ai vraiment identifiées. Après, il y a bien sûr tous les entre-deux, mais c'est plutôt d'être ça les pratiques en tout cas.
Effectivement, moi j'aime bien cette notion d'un apport hyperprotéiné et surtout pour la récupération. Surtout, comme tu dis, je pense que les nerfs de la guerre, c'est si on va consommer des glucides, soit pendant l'effort, surtout pendant l'effort, il faut faire attention au indice glycémique. Hein. Et là, je pense qu'il est plus sûr invité dans ton podcast, ils en parlaient. Je pense que ça c'est vraiment les nerfs de la guerre. Parce que l'insuline, il va avoir deux fonctions. Un, il va prendre effectivement les sucres dans le sang, mais il va aussi freiner les cycles où on va utiliser les gras qu'on a en réserve pour favoriser effectivement l'utilisation de la soupe. En fait, l'objectif, c'est de baisser les taux de sucre dans le sang parce que c'est toxique à partir d'un certain niveau. Donc, ça devient prioritaire pour le corps et il a cette double fonction. Donc, si on veut pouvoir changer d'une filière gras ou de l'utilisateur mélangé ou que ça passe d'une filière à l'autre, il faut effectivement faire très attention à cet indice glycémique. Et c'est comme ça qu'on va... maintenant, j'y crois beaucoup hein, sur ce qui s'appelle la flexibilité métabolique, pouvoir faire ce changement entre une filière ou une autre en dépendant de l'effort qu'on va mener. Je crois qu'effectivement, si on commence avec la filière lipidique et après on fait un pic, notamment en course vélo, on voit les professionnels de vélo, c'est ça qu'ils font, sur un régime en low carb. Il prend des cétones à la fin pour vraiment pousser les réserves des lipides et de glycémie des lipides le plus possible. Et après, la dernière montée, voilà, ils vont exploser avec les réserves des glycogènes plutôt intactes. Je pense que ça c'est plus facile. Une fois qu'on a fait un effort vraiment dur et qu'on utilise les glucogènes, faire ces changements revenir à la filière lipidique, je pense que c'est un peu plus compliqué.
Ouais.
Et ça dépend effectivement qu'on n'a pas fait ou qu'on n'est pas trop sensible à l'insuline.
Ouais, c'est ça. En fait, moi je sais que j'ai eu quelques expériences comme ça pour différentes raisons. D'ailleurs, une fois j'ai fait un marathon route où j'avais rien amené à manger et je comptais faire un effort intense parce que je voulais vraiment me pousser un petit peu. J'avais pas pensé à amener des trucs pour moi, enfin bref, je fais pas fait attention, du coup je me suis contenté des boissons qui étaient fournies sur la course, 1000 fois plus sucrées que ce que je boirais jamais de ma vie, dans mon habitude, et je me suis complètement coupé les jambes, c'est-à-dire que ça se passait super bien, et tout d'un coup j'avais juste plus de jus, alors que d'habitude, pour situer les choses, moi qui cours plutôt de la distance, un marathon, ça avait rien d'exceptionnel, c'était le fait de le faire vite en fait qui était particulier. Donc me retrouver à 30 bornes avec vraiment mais juste plus d'énergie du tout, ça m'était pas arrivé depuis des années et du coup je l'ai bien compris, c'est ce truc d'indice glycémique en fait est essentiel.
Oui, complètement. Et je pense, maintenant j'ai commencé à lire les livres Ultra Performance, je sais pas si tu l'as vu, Fabrice Kuhn. Il parle effectivement de cette flexibilité métabolique. Il met un autre facteur qui s'appelle le sleep low. Donc, dormir pratiquement avec très peu de réserves de glucogène, en cétose. Et après, pendant la journée, on peut manger un peu plus normalement. Parce qu'effectivement, on sait que dans la vie quotidienne, ce n'est pas évident d'avoir un régime cétogène. Au low carb, même low carb. Je suis d'accord avec toi, hein, je préfère les termes low carb que cétogène.
Ouais, ensuite, voilà, donc ça, c'est sur le niveau de l'étude de l'activité physique, il y a énormément de recherches maintenant qui se fait là-dessus, même dans le monde du glucide, en fait, quelque part. Ils s'intéressent de plus en plus aux notions d'indice glycémique, ils s'intéressent de plus en plus à une meilleure gestion des glucides, parce que je pense qu'il y a un petit peu plus de preuves par le fait accompli. C'est pas juste, c'est pas un truc de, là on est un peu sorti du monde des labos, c'est-à-dire que si tu es cycliste par exemple et que tu fais du cyclo sport et que tu vois qu'à côté t'as des mecs qui vont aligner 400 bornes par jour sur du cyclisme ultra distance et qui sont en train de tourner à la purée d'amande, tu te dis, attends, il y a peut-être quand même un truc à apprendre. Ça veut pas dire qu'ils ont raison, mais il y a peut-être quelque chose. Et du coup, regardons ce qu'ils font. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, dans tous les domaines sportifs, on commence à regarder ce genre de choses.
Et surtout sur les domaines de l'ultra, je pense qu'il y a deux choses. cette partie alimentation. Et je ne sais pas si tu as vu sur les dernières Tours de France, là, ils commencent à utiliser, là, c'est très commun, les patchs pour faire les suivis d'indices des glycémies en temps réel. Je
Alors,
pense que ça va révolutionner.
je me permets de préciser un truc là-dessus. Donc, en fait, le patch dont tu parles, en fait, donc c'est un capteur, en fait, qui est donc, oups, c'est un capteur qui est donc juste dans la peau, qui est fixé dans la peau avec une petite aiguille, mais toute petite, hein, qui relève en fait la glycémie en continu. Donc, en fait, il y a une mesure de glycémie qui est perpétuelle, et à l'aide d'un petit appareil, en fait, on peut avoir la valeur. C'est une de nos invitées, Cynthia Bouabdellah, qui avait parlé de ça dans son épisode, parce que justement, elle mesure en fait sa glycémie, étant diabétique de type 1, mesure régulièrement sa glycémie. Et donc, c'est exactement la même technologie qui est aujourd'hui mise à disposition des sportifs. À noter qu'on pourrait l'acheter directement auprès du labo. Hein. C'est juste que ça vient avec une appli, etc. Donc, en gros, c'est à peu près la même chose, mais c'est ça en fait qui est utilisé aujourd'hui. Et c'est vrai que le suivi de la glycémie pendant l'effort, en fait, ça t'apprend énormément de choses.
Oui, je pense que ça, c'est un des facteurs. Et dans les ultras, surtout l'ultracyclisme, je pense que la deuxième, c'est les facteurs sommeil. Et là, je suis pas déçu parce que je suis un grand. Moi, j'aime bien dormir. Et si je ne dors pas, ça complique les choses. Mais effectivement, je pense que c'est deux aléas que. Qui vont en bas, ils vont exploser dans les années qui viennent, l'alimentation et le sommeil.
Ouais, c'est clairement des choses enfin, dont on parle beaucoup plus qu'avant. Ce qui est marrant, c'est de voir qu'en fait, quelque part, on retourne quand même vachement plus vers, on va dire, ce que prenaient de vieux entraîneurs qu'on utilise. Enfin, quand je dis vieux, parce qu'ils sont, enfin, ils sont plus avec nous, mais des entraîneurs un peu historiques et légendaires. En fait, on se retrouve à se rapprocher vachement de leurs enseignements de l'époque. Ou en tout cas, aller regarder de plus en plus sérieusement, se dire que peut-être que certaines de nos avancées étaient peut-être pas si malignes que ça, parce qu'en fait, on a réussi à améliorer des performances, mais on a aussi eu un coût assez élevé. C'est-à-dire que oui, ok, peut-être qu'on a grappillé quelques secondes, voire minutes sur tel ou tel record, mais à côté, les mecs qui arrivent à signer ces temps-là, bah, en fait, ils sont incapables de le faire 5 ans d'affilée. Ils peuvent le faire une année, ils arrivent au pic, puis ensuite ils s'effondrent ou ils disparaissent. Alors que du coup, c'est pas génial comme investissement. Je veux dire, imagine, tu passes 10 ans à payer un athlète pour qu'il aille faire son chrono, il fait son chrono, et puis t'en feras jamais un deuxième. Enfin, c'est un peu dommage. Puis même les athlètes eux-mêmes se posent la question, quoi. Donc, je pense que t'as beaucoup d'évolutions comme ça qui changent au niveau du sport. Donc, toi, pour revenir sur, parce que après, moi, je peux radoter pendant des heures, toi, ton parcours. Donc après pour revenir un petit peu sur ton histoire, après cette French Divide, donc que tu comprends que le saumon pas frais et toi c'est vous faites pas bon mélange, mais surtout t'as expérimenté avec le low carb, ça s'est pas trop passé comme t'aurais voulu, mais t'es quand même convaincu malgré tout. Donc qu'est-ce qui se passe après cette French Divide?
Donc effectivement, je suis convaincu d'une chose, c'est que les lipides comme source d'énergie, il a des avantages clairs, très clairs pour la longue distance. Moi, après moi j'ai fait 14 ans de Grand Bistri, donc j'avais envie de faire un projet et surtout quand on est dans ce milieu. Et je pense que pour toi, ça, c'est pareil avec les podcasts. On rencontre des gens qui sont. Et on a envie de faire plus de choses et les rencontrer. Et c'est ça que j'ai voulu faire un petit changement dans ma vie. Et j'ai décidé de porter un projet. Au départ, je ne savais pas exactement c'était quel type de produit, mais je savais que c'était à base de lipides et que c'était pour la performance et que c'était dirigé à l'esport. Donc, j'ai présenté un projet, je rentre dans un incubateur ici, dans les Nord, un incubateur spécialisé agroalimentaire. Et une fois que je suis rentré, je décide voilà, de rentrer et vivre cette aventure à 100%. Il faut être complètement dedans. Comment dire, il a certains jeux que si tu n'es pas 100% dedans, tu n'es pas en train de jouer. Et moi, je crois qu'il faut aller, c'est 20% dedans. Donc, j'ai quitté mon poste, ma zone de confort. Un peu dans la vision ultra-endurance, tu sais, on quitte la zone d'effort et on part, quoi. Et une fois qu'on est dedans, on est déjà parti, il n'y a pas de recul, on avance. Et une des premières choses que j'ai fait, c'est je suis parti aux États-Unis voir c'est quoi qui s'est passé là-bas. Et j'arrive à la KetoCon, qui c'est la Keto Conference à Austin. Et là, ça m'a ouvert les yeux de beaucoup de formes.
On devrait peut-être juste préciser un truc, hein, c'est que keto, ça fait référence à ketogenesis, ce qui est juste la traduction anglaise de cétogène. Donc la KetoCon, en gros, c'est la conférence de la conférence céto. Ouais.
Exactement. Et c'était les deuxièmes années qu'il était passé, donc c'était quelque chose d'assez nouveau aussi. Mais les produits et on va dire que la communauté céto aux États-Unis, c'est premièrement la perte des poids. Parce qu'ils sont une problématique d'obésité majeure. Plus sûr, je pense qu'à 60% femmes. Donc, aussi quelque chose qui m'a marqué. Donc, perte des poids. Deuxième point, santé. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient ce type de style de vie ou des régimes parce qu'ils sont diabétiques ou qu'ils sont des maladies cardiovasculaires ou des maladies ou qu'ils sont quelqu'un avec la maladie comme Alzheimer. Et c'est la première fois aux États-Unis que j'ai entendu parler de l'Alzheimer comme le diabète du cerveau.
Ouais, régulièrement, on verra dans des articles, même scientifiques, où ils vont référer à Alzheimer comme le diabète de type 3. Voilà.
Et donc là, déjà, je vois un potentiel énorme parce que je pense qu'effectivement, la surconsommation de sucre, c'est un problème. Ça, c'est, je pense qu'il n'y a pas grand débat dessus. Les aliments ultra transformés, ils sont pleins dedans parce que pour faire, il a beaucoup de glucides dedans parce que pour la texture, en fait, ils enlèvent les lipides, ils s'enlèvent les gras et pour avoir la texture, ils mettent des glucides. Donc, ça devient un peu problématique. Et donc, moi, je me suis rendu compte que c'est pas ça mon projet. Moi, je parle de performance. Je parle de déjà d'une population qui n'est pas en problème de santé, mais une population qui veut juste améliorer sa performance. Et ça, c'est juste, je pense, le troisième marché aux États-Unis. À savoir que tous les produits. Et c'est très intéressant parce que les produits que j'ai vus qui se développent aux États-Unis, oui, il a 0% des glucides, mais ils sont pleins d'édulcorants. Donc, les stevia, il est très présent, les érythritol, ils sont très présents. Ça, c'est des édulcorants que même s'il n'a pas de calories dedans, il y a beaucoup d'études que ça peut provoquer une sécrétion d'insuline aussi. Juste avec
Exactement.
les frais. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai voulu faire. J'ai dit, OK, moi, mon produit, il n'a pas d'édulcorant. Je veux pas. Et je pense que culturellement, c'est intéressant de sortir de cette notion qu'une collation doit être sucrée. Je voulais aussi participer à ce niveau-là, de dire, à un niveau gastronomique, il n'y a pas que les sucrés qu'on doit consommer à niveau NK ou goûter. Moi, j'ai deux filles et quand je vois ce qu'on donne comme goûter pour les enfants, ça me fait pleurer. Et donc, je voulais participer à ce niveau, à niveau gustatif. Et deuxième, je voulais avoir un produit qui, majoritairement, c'était des lipides. Et très peu, au départ, j'ai parlé des séroglucides, sérosucres. Mais on sait que, par exemple, les amandes, ils ont un tout petit peu de glucides dans sa formulation, les noix aussi. Donc, nous, on est à 3% dans nos produits. Et donc, c'est vraiment très bas. C'est plus bas qu'on peut y arriver.
Bah, en plus, enfin là, pour le coup, si on prend l'exemple de l'amande, oui, ok, il y a des glucides, mais en fait, l'indice glycémique est assez bas.
Oui, tout à
Donc,
fait.
l'impact sur le corps reste négligeable.
Tout à fait, tout à fait. Trois. Donc, je rentre des sept conférences et j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais beaucoup de pistes. Hein. J'ai réfléchi au ghee, qui c'est les beurres clarifiés. Et aussi, c'est un profil lipidique très, très, très intéressant. Il a des pistes avec les lipides animaux, type c'est qui s'utilise pour les pemmicans, les Indiens américains. Vous savez qu'il fait ça avec les gras de l'animal, il prend de la viande séchée, il la moudre, et après, ils font fondre les gras de l'animal, et ils font des barres avec ça. Bon, il fait pas des barres, il fait juste des boules comme ça, et c'est les Indiens nomades qui s'alimentaient comme ça quand ils s'étaient bougés d'un endroit à l'autre.
Bah, c'est intéressant, ça, justement, ce processus que tu as eu, parce que qu'est-ce que tu as raconte-nous un petit peu ce que tu as exploré en fait comme possibilité et surtout où est-ce que tu es allé trouver de l'inspiration, enfin les différentes idées.
C'est parti des viandes séchées. C'est quelque chose qu'au Mexique, on utilise surtout là dans les nord, où on avait aussi des Indiens comme les Indiens américains. Donc là, c'est juste que je savais que c'était très bon, qu'il avait la viande et qu'il avait du goût. Après, sur la partie beurre, c'est parce que oui, c'est quelque chose que j'utilisais. Et j'utilisais beaucoup quand j'ai commencé à faire des régimes, même encore aujourd'hui. Et après, quand on commence à atterrir tout ça sur les plats et sur les concrets, il faut qu'on commence à avoir des différentes choses. Possibilité de production, à savoir que dès le départ du projet, je voulais être fabricant. Ça, c'est une grosse différence avec des autres marques qui font les formulations, mais après, ils s'appuient sur des industriels. Et d'un côté, c'est bien, mais il y a beaucoup de contraintes. C'est que les industriels, ils ont déjà des formules de base. Ils ne vont pas changer pour une nouvelle marque. Et après, ils ont des minimums de quantités qui sont énormes aussi.
Ouais,
Donc,
ce qui
moi, au départ, je savais que je voulais être fabricant. Et donc, on commence à mettre cette contrainte dans les produits. OK, c'est quoi que je peux fabriquer ici? Travailler avec des produits animaux, c'est beaucoup plus complexe aussi, en termes de traçabilité, en termes de. On a besoin d'un outil industriel un peu plus puissant. Donc, aussi, il avait la piste des solagineux. Et donc là, j'ai décidé une des premières décisions, parce que c'est comme ça qu'on avance. On a des contraintes, on dit OK, tout ça j'aime bien. Peut-être qu'après on fera des développements sur cette piste, mais on dit maintenant c'est les solagineux. Et donc j'ai fait des analyses. J'ai fait des analyses sur macadam, noix de cajou, pistache, les noix, les cernes noix, les pécans et les amandes. Et on voit qu'est-ce que ça donne, on voit qu'est-ce que ça donne en texture, qu'est-ce que ça donne en goût et aussi les profils lipidiques. Et à ce moment-là, il rentre une autre contrainte, que c'est un bon exemple, c'est un profil lipidique, la macadam, c'est une super noix. En termes de son ratio des lipides, les oméga-3, c'est une noix que c'est très intéressant. Mais après, quand on va être fabricant, on va faire une marque, est-ce que j'ai envie de faire venir de noix de l'autre côté du monde pour les fabriquer ici? Et donc là, on met ça dans la balance, on voit que les cernes de noix, il est très intéressant aussi. Surtout, en plus, il y a des antioxydants que les autres n'ont pas. Dit, voilà, si j'ai les cernes de noix ici, j'ai les amandes ici en Europe. Pourquoi je vais chercher des noix de l'autre côté du monde qui on ne sait pas, on ne peut pas contrôler comment ils sont récolter. Donc là, c'est un premier filtre. Deuxième filtre, c'est ça. L'épistage, c'est aussi intéressant. L'épistage, il a un peu plus de glucides dedans, mais en termes de, ça, c'est aussi une contrainte économique. L'épistage, c'est beaucoup plus cher. Et on arrive à notre noix. Et après, je dis, OK, je veux travailler avec les noix françaises. Là, on a des noix des Périgord. Et on commence à faire des tests avec les noix. Et là, on se rend compte pourquoi on est les seuls à travailler avec les noix. Tu ne trouves pas dans les marchés, tu trouves des purées d'amandes, mais la noix, c'est très délicate, c'est très compliqué, parce que tu as toute cette peau qui est pleine de polyphénols. Et donc, on s'est trouvé avec une pâte très astringente, un peu comme les pains rouges à la fin, un peu piquante, très difficile en bouche. Et donc là, ça commence une autre dimension, c'est la dimension industrielle. Okay, comment on va faire? C'est quoi qui arrive? Quelle machine on peut utiliser? On a eu des problèmes parce que si la machine tourne trop vite, ça chauffe les huiles et ça devient rance. Si on met les noix crues et on les travaille comme ça, on ne maîtrise pas l'humidité. Donc si on a un batch de noix qui a un peu plus d'humidité, ça va défaisser plus rapidement. Donc, beaucoup, beaucoup de contraintes, on commence à résoudre peu à peu avec aussi notre fournisseur des machines. Et on arrive, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait une chose que c'est on torréfie les amandes et les noix avec une torréfaction lente. Donc, on passe beaucoup de temps pour pas venir brûler la peau. On veut pas brûler la peau. On veut juste que ça se cuit de l'intérieur à l'extérieur. Donc, on fait ça avec de l'air, ça tourne. Et après, on fait un petit process où on enlève un tout petit peu la peau des noix. Et après, on a deux process de broyage que ça nous permet d'avoir une pâte. Tu l'as vu, il est très lisse. Il est super lisse. Et tu n'as presque pas cet amertume à la fin. On a réussi, mais ça nous a pris quelques maux de tête, arriver à cette texture, au goût et aux textures qu'on voulait. Et avec les profils lipidiques. Donc, on rajoute un tout petit peu d'MCT parce que c'est un produit performance. Donc, on cherche la performance. Il faut que ça s'absorbe très rapidement par le corps. Et les MCT, c'est les acides capréliques et acides capriques que les corps, ils vont venir et les absorber très rapidement. Et aussi, c'est très donc digestion très facile.
Alors l'huile MCT, je suis sûr que j'en ai déjà parlé dans l'émission, enfin il me semble en tout cas, mais c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans, par exemple, dans l'huile de noix de coco, enfin l'huile de coco quoi. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose dont on entend parler dans la cétose, parce que il y a certains types en fait de, enfin dans la MCT en fait on a certains types de triglycérides qui sont utilisés en fait pour le développement des cétones qui sont la base du régime cétogène. Donc c'est pour ça que c'est l'huile MCT en fait, c'est en gros un concentré de tout ça. Où on choisit certaines, du coup, certaines de ces, enfin, certains de ces triglycérides, de faire, enfin voilà. Et il s'avère que l'huile de coco est plus riche que d'autres types d'huile, donc c'est pour ça que c'est souvent privilégié.
Oui, tout à fait. On utilise ce qui s'appelle les C8 et les C10. Il y a 8 carbones et 10 carbones. C'est l'acide caprique et caprylique. Et effectivement, on peut l'obtenir des huiles de coco comme c'est la source que nous on utilise. Il y a aussi dans les huiles de palme. Mais on sait que voilà, les contraintes pour les planètes, c'est pas souhaitable. Donc nous, on n'utilise pas avec huile de palme. Mais effectivement, c'est les huiles de coco. Et on utilise un pourcentage juste qui va nous permettre d'être absorbé assez rapidement, mais qui ne va pas élever cette goût ou changer la texture de nos produits, quoi.
Et donc, t'en es venu du coup à donc ce mélange. C'est ce que je regardais donc sur la composition des produits. Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai la petite fiche à côté de moi, je vais regarder. Mais... En gros, t'avais l'idée, c'est que tu utilises comme base Alors j'en prends un parmi d'autres, hein, mais en gros tu utilises donc majoritairement des cerneaux de noix et des donc tes amandes torréfiées plus l'huile et ensuite tu viens apporter en fait un arôme. Donc t'en as fait plusieurs à base de cacao. Comment est-ce que, enfin, quel est en fait le dosage? Ça m'intéresse un petit peu d'un point de vue purement gustatif. Enfin, comment vous avez fait pour trouver le bon dosage? Parce que tu utilises du cacao, pas du chocolat, ce qui est pas la même chose. Et donc qui a une certaine amertume. Tu as le côté donc astringent du cerneau de noix que tu viens adoucir en fait avec l'amande, parce que l'amande est beaucoup plus délicate en bouche. Donc ça doit un peu se lisser. Et est-ce que c'est aussi l'amande qui calme un petit peu l'amertume du chocolat? Parce que sur les produits que j'ai essayés, c'était pas particulièrement amer, même si on sent quand même un chocolat riche.
C'est très intéressant parce que tu as effectivement la raison d'être de l'amande dans la formule. C'est effectivement, ça vient arrondir la partie astringente de noix. Donc, c'est la première partie. Et pour les cacao, c'est cacao 100% cacao. C'est les sels qui viennent jouer son rôle. Donc, c'est les sels qui va arrondir cette amertume de cacao 100%. Et ça, je l'avais déjà il y a plusieurs années après l'université. Au Mexique, on fait ce qu'on appelle un service social. On donne certains sœurs pour la communauté. Et moi, j'étais dans une communauté maya au sud, où ils mangeaient les maïs avec les cacao, comme ça. Ils mettaient du sel et du piment. Et c'était les cacao, il l'appelle pozole, et ça m'a resté. Et j'ai dit, écoute, on va tester qu'est-ce que ça fait. Parce qu'effectivement, si on ne met pas ces points de sel, on utilise les sels de Guérande, en plus, c'est un goût très particulier. On a essayé avec des autres sels, et ce n'est pas la même chose. On utilise les sels de Guérande, et effectivement, ça vient arrondir cet amertume. Donc, il y a tout un travail derrière. Les sols où on n'a pas utilisé ça, c'est la cacao menthe. Mais la menthe, elle est assez puissante pour qu'on reste avec une amertume. C'est un produit assez frais, donc l'amertume, ça ne gêne pas comme dans les autres. Oui, mais
C'est
tu as.
marrant parce que celui-là, on a fait une petite dégustation. Enfin, c'est ma compagne qui a choisi le premier comme ça, elle a pris ça. Alors moi, d'habitude, j'aime pas trop ce mélange-là. Mais en partie parce que tous les produits que cacao menthe que j'avais connus par le passé, c'est toujours extrêmement sucré. Et moi, je trouvais ça dégueulasse. Là, pour le coup, je dirais pas que c'est mon truc préféré, mais j'ai trouvé que du coup, c'est vrai que ça avait un bon équilibre et j'ai trouvé ça intéressant. Alors que normalement, c'est vraiment une saveur que j'apprécierais pas. Le fait d'avoir, je trouve que c'est un assez bon équilibre où tu utilises en fait juste une huile essentielle. C'est ça, hein, comme une huile essentielle de menthe. Que tu poses en fait sur ton mélange base donc d'amandes et du coup de cacao, ça donne un truc assez intéressant. Ouais.
Donc ça, effectivement, on a sur les sortes, en fait, les premières qu'on a développées, c'était vanille et cannelle, parce qu'on n'avait pas encore avancé sur comment venir arrondir cette partie cacao. À savoir que toujours j'étais très têtu et je suis encore de pas ajouter un gramme de sucre et d'édulcorant. Donc effectivement on se pose la contrainte et après on voit comment on peut arriver à la contourner. C'est intéressant parce que les sportives, on a fait une enquête hein, et les gens qui achètent nos produits, les sportives, c'est très clair que les préférés c'est cacao sel. Je pense que parce qu'il y a aussi un besoin en sel, on est plus sensible au sel. Et les gens qui les prennent plutôt comme un incas au travail, pendant la journée, c'est plutôt la vanille. Parce que c'est le plus doux, on va dire. La vanille, elle vient jouer en douceur. Et donc aujourd'hui, c'est les deux goûts qui prédominent. Mais moi, je suis assez contente avec la gamme parce que je pense qu'il a une variété. Aujourd'hui, on boit cinq produits et vraiment, il a cinq produits avec des goûts vraiment différents.
Bah, c'est intéressant parce que en fait, moi je trouve qu'en tout cas le produit, je les ai pas tous essayés, mais bon, le produit final en tout cas d'un point de vue gustatif est appréciable. Mais surtout, bon voilà, t'as eu cet effort en fait de vraiment faire quelque chose qui est intéressant d'un point de vue nutritionnel. Je les ai pas essayés dans une situation d'effort, donc je me prononcerai pas du tout sur si. Enfin, moi je trouve que ça me convient. Je parle juste, voilà, j'ai goûté le truc et j'ai trouvé ça intéressant. Mais d'un point de vue nutritionnel et sur le papier en tout cas, pour les gens qui voudraient pratiquer justement un effort, mais même pas forcément un effort cétogène en fait. C'est juste quelqu'un qui veut pouvoir s'alimenter pendant un effort physique, sans ne manger que du glucide, parce que en fait. Enfin, moi, le premier, sur certains efforts importants, je vais me retrouver en fait à vouloir faire un mélange des deux. Et le truc, c'est que je veux des trucs que je peux emmener qui vont être glucidiques, donc typiquement des glucides très simples pour les gros pics d'intensité. Et ensuite, bah, quand j'ai besoin de manger, pour moi, manger, ça, c'est pas du sucre en fait. J'ai pas besoin de sucre pour manger. Et du coup, enfin, distinguer un peu ces trucs-là. Ben là, du coup, ça devient un produit intéressant. Donc, je pense que déjà, juste au niveau de la recette, hein, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Ce qui m'a intrigué, et du coup, je voudrais bien que tu nous en parles un petit peu aussi, qui sort peut-être un peu de la considération santé, c'est comment est-ce que tu choisis en fait un format sur lequel proposer ce produit? Parce que t'aurais pu décider de faire genre une barre, ça c'est un format très connu. T'aurais pu décider de parce que après tout une barre de noix c'est pas si compliqué que ça si on regarde le principe, hein. T'aurais pu décider de faire une barre, t'aurais pu décider de faire je sais pas autre chose. Enfin, pourquoi ce format puré? Pourquoi en plus ce format un petit peu assez liquide, hein, parce que c'est pas super épais, hein. C'est pas épais en fait comme une purée d'amande par exemple.
En fait, sur la texture des produits, pourquoi les barres, ils sont une contrainte. Hein. Les barres, parce que même si on fait des barres avec des cacahuètes, on a besoin d'un agglutinant. Et très souvent, c'est les fruits qui s'utilisent on va dire des sirops pour venir agglutiner tout ça. Donc, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de barres, même si on les voit transparents avec plein de cacahuètes, mais à l'intérieur, tout ce qui agglutine, c'est des sirops. Donc, c'est pas assez évident. Mais surtout, moi, j'ai vu une explosion du gel et ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé de voir qu'on achetait des lots avec des. Pour moi, c'est des gommes. C'est des gommes qu'on a dilués dans l'eau et qu'après on les vend.
Ouais, les petits bonbons en gomme là, ouais, c'est ça.
En vrai, là ça m'a dérangé un peu et j'ai dit, je veux. Et en plus, c'était une catégorie des produits en forte croissance. Et j'ai dit, je vais présenter un produit à base de lipides, mais avec qui vient se présenter avec cette même texture. Qui plaît et qui vient se présenter en alternative. Donc, un peu, voilà, on va poser un vrai produit avec une vraie texture, une vraie plan en bouche, parce on sent la richesse du produit en bouche, et on va venir essayer que les gens. Parce que pour l'avoir vu, les gels, je pense que c'est quelque chose que. Il n'y a pas un seul contexte où c'est bon de les manger. Même ils sont écrits à l'intérieur à prendre toutes les 45 minutes. Donc ça veut dire que les fabricants, ils savent très bien qu'il a une hypoglycémie après. Ils sont trop concentrés. Sauf si on les dilue avec de l'eau, mais c'est très concentré. Et même si on est en train de faire un effort très fort, on va avoir un pic de glycémie. Donc, moi, c'était un peu ça. Et de l'autre côté aussi, c'est dire qu'est-ce que je suis capable de produire industriellement moi-même. Donc, c'est un peu les deux. Et c'est pour ça qu'on arrivait à une texture très liquide. Faire la texture un peu moins liquide, c'est facile. Arriver à la texture plus liquide sans défaçage, c'est plus compliqué, c'est plus complexe.
Quels ont été justement les gros enjeux en fait pour mettre un produit comme ça sur le marché déjà dans sa conception? Parce que bah, j'imagine qu'il y a eu tu vas avoir quand même bon déjà le travail de la recette, ça tu l'as t'as un peu décrit le processus, hein. Mais est-ce que lorsque tu amènes un produit comme ça sur le marché où tu es vraiment aux antipodes en fait de ce qui se fait en nutrition sportive, est-ce que tu vois de la résistance quelque part? Enfin, est-ce que c'est accepté par le marché sur lequel tu t'inscris?
Je pense qu'il faut être un peu têtu. Effectivement, il faut croire dans son sujet. Et après, on devient un peu un commercial quand on présente pour acheter les machines ou tout. Il faut qu'on voit les banques aussi. Donc, c'est même si avant de vendre nos produits aux clients finaux, on les vend à des gens qui nous cèdent financièrement pour que ça devienne une réalité. Donc, ça, c'est un premier point. Et effectivement, avec cette phase, il faut vraiment croire dans les produits. Il faut savoir bien expliquer pourquoi les lipides, c'est une bonne chose. Après, moi, j'ai voulu les placer dans les noms carrément, tu vois, Rolifat, pour vraiment marquer un contre-pied à les croyances que les gras et les mauvais. Donc là, c'est en partie un peu en marketing. En marketing, mais en communication, de dire comment je vais dire aux gens que mon produit à base de gras, il est bon. Là, on dit, Holy Fat, il n'est pas bon, il est même plus que bon, il est sacré. Après, effectivement, je pense qu'une fois qu'on les met dans les marchés, et l'avantage qu'on a, c'est que la communauté de l'ultra, soit l'ultra trail ou l'ultra distance, ils s'étaient déjà sensibilisés au sujet. Dans ces points, je pense qu'on est très bien reçu par la communauté de sportifs. Et c'est pour ça qu'on reste avec cette communauté de sportifs et on se focalise sur ça. Je pense que si on essaie d'aller au marché des masses avec tout le monde, il y a un fort travail de pédagogie à faire avant. Quelques années de pédagogie. Je pense que ce n'est pas un produit pour tout le monde qui n'est pas cette pédagogie, qui ne connaît pas, il va pas comprendre. Il ne va pas comprendre pourquoi, si on mange des gras, mais il n'a pas de sucre, pourquoi c'est bon pour la santé. Mais je pense que ça va venir dans quelques années. Si tu vois, dans notre site, on essaie de faire aussi beaucoup de la pédagogie en expliquant. Voilà, déjà en partie, on explique les ingrédients et on explique aussi c'est quoi une hypoglycémie, pourquoi un régime bas en glucides pour les sports. Et on essaie de donner notre point de vue. Et j'aime bien dire ça, c'est notre point de vue parce que je pars d'un constat que c'est tellement complexe l'alimentation et tout ce qu'on sait, c'est très peu en comparaison de tout ce qu'on ne sait pas. Moi, j'aime bien dire aux gens, écoute, je ne vais pas te dire c'est quoi bien pour toi ou pas bien, goût, essaye. Et si ça te convient, voilà, tu peux l'acheter, mange-le. Et si ça ne te convient pas, voilà, ce n'est pas pour tout le monde.
Il y a une manière dont j'aime bien regarder l'alimentation sportive. S'appuyer sur le fait que notre activité physique en fait a pas un énorme, enfin on va dire c'est sur une journée type, on exclut les trucs de malade mental, d'ultracyclisme, là on parle vraiment de juste une journée type, d'accord, une journée type où tu vas faire du sport, imaginons tu vas faire 1 heure de sport, peu importe l'intensité, hein, c'est pas le débat, et bah tes besoins caloriques sur cette journée vis-à-vis du lendemain où tu vas ne pas faire le sport, d'accord? Donc, tu fais 1 heure aujourd'hui et demain tu le fais pas. Ton apport calorique nécessaire pour fonctionner, il va être quasiment identique d'un jour à l'autre. Il va presque pas bouger, en fait. C'est pas parce que t'as fait 1 heure de sport, même 2 heures. Hein. En fait, tu vas pas avoir besoin de manger plus le lundi où t'as fait ton heure que le mardi où tu l'as pas fait. Il n'y a pas une vraie différence. Donc, déjà, s'il n'y a pas une vraie différence, c'est que ce que tu manges au quotidien, a priori, devrait déjà être assez adapté à ton effort. Donc t'as pas, enfin, le principe de se dire parce que je fais du sport, je vais m'enfiler un gel parce que tu vois, enfin, j'ai fait une séance de sport. Moi, enfin, je vois les gens le faire, je comprends pas en fait. Voilà, j'ai beau le voir régulièrement, voir quelqu'un à l'entraînement s'enfiler un gel, ça me dépasse complètement. Mon cerveau arrive juste pas à appréhender le truc. Mais après voilà, je l'ai jamais fait, donc c'est peut-être aussi pour ça. Je mets pas en doute leur choix, c'est juste que moi je le comprends pas. Et donc l'idée de se dire que bah si je peux faire du coup toute ma journée sportive ou pas sportive sur la même alimentation, donc en gros en mangeant la même chose que d'habitude, pourquoi est-ce que le jour où je vais faire une course, qui est parfois pas forcément beaucoup plus longue que certaines de mes séances de sport, hein, pourquoi est-ce que là je devrais prendre un truc qui n'est pas dans mon alimentation habituelle? Et c'est sûr que si je vais faire un ultra, alors qu'en temps normal je m'entraîne 1 heure tous les 2 jours, oui, bon d'accord, là je peux comprendre qu'il va falloir compenser, mais si mon entraînement est adapté, on peut supposer que cet ultra, même si ça va être une charge supplémentaire, c'est pas non plus un truc surhumain par rapport à ce que je fais d'habitude, si je me suis bien préparé, bien sûr. Donc du coup, je devrais pouvoir l'appréhender avec plus ou moins, et je dis plus ou moins parce qu'il y aura toujours peut-être une variation, plus ou moins la même chose que ce que je pourrais utiliser tous les jours. Donc je devrais pouvoir me nourrir avec la même nourriture que d'habitude. Le truc, c'est que c'est pas toujours très pratique d'emmener ta nourriture de d'habitude avec toi. Et c'est là que l'alimentation sportive a son intérêt. Donc, quelqu'un comme moi, comme toi, qui pratique plutôt une alimentation faible en glucides, par exemple, aujourd'hui, on s'est fait une salade de gésier haricots verts. Bon, la salade de gésier haricots verts sur un ultra trail, c'est pas pratique. Il faut l'avouer. C'est-à-dire qu'il faut partir avec ton petit Tupperware, ta petite cuillère. Alors après, moi, ça me ferait rêver, hein. Il y a des courses, j'imagine des ravitaillements, tu sais, après 50 bornes de course à pied. Tu me proposes une salade Jésus haricots verts, mais je suis aux anges, tu vois. Mais le truc, c'est que je peux pas l'emmener avec moi, c'est pas pratique. Donc, j'aime bien cette idée d'avoir pris un ingrédient, parce que moi, je mange des noix au quotidien, d'avoir pris un ingrédient que j'ai déjà de mon alimentation et de me le proposer sur un format juste pratique, pour la compétition, tu vois. Et ça, je trouve ça super intéressant.
Je pense que tu as complètement raison. Et aujourd'hui, effectivement, je les vois aussi, hein, des petites séances de 10 kilomètres. Voilà, où j'ai la sortie, où j'ai l'entrée. Et tu dis, mais en fait, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Et moi, je dirais, ça dépend de chacun, mais je pense que tu peux faire 2, 3 heures de sport. Complètement, c'est un problème, c'est quelque chose en plus que de l'eau. Et c'est dans ce sens-là qu'on voulait mettre ça en holy fat en face au gel, parce que déjà c'est une alternative, parce que si en plus tu prends quelque chose de sucré, en plus que tu n'as pas besoin, tous ces sucres, tu vas les mettre en réserve comme des gras. Donc, la différence avec un produit à base de lipides, c'est que tu vas pouvoir faire ton sport sans bloquer ton utilisation de gras, c'est-à-dire de tes réserves. Mais il y a une particularité avec les produits lipides, avec les gras, même si on dit qu'il y a une connotation quand on dit gras. Mais quand tu manges un trolley fat, ou même tu manges n'importe quel produit qui est très chargé en lipides, tu as une notion de satiété très importante et très rapide. Donc, c'est très difficile de manger trop de lipides. Et c'est l'opposé aux produits sucrés. Quand tu manges les produits sucrés, tu auras envie de manger encore plus 30 minutes après. Donc déjà, c'est quelque chose de très simple, parce que tu vas, même moi, hein, quand je consomme. Quand j'ai fait des grandes sorties, là on a fait 5-6 heures il y a 2 semaines avant les confinements, et j'ai pris des petits flacons en silicone. J'ai pris que ça. Et j'ai fait très attention, parce que sinon après j'arrive à la maison et je n'ai pas envie de manger, parce que j'ai un sentiment de satiété. Donc nous, normalement, avec les personnes qui ont goûté Holy Fat, pratiquement, tu prends une petite dosette de 28 grammes et ça te tient 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'effort, avec un niveau d'énergie constant, et surtout que tu n'as pas faim, tu n'as pas envie de manger une autre chose. Et je pense que ça, c'est très important. Ça, c'est très important.
On l'avait un petit peu détaillé dans un autre épisode. En gros, le principe derrière ça, c'est juste la production hormonale. Qu'en fait, la satiété, c'est une hormone qui régule ça. Et il s'avère que l'insuline qu'on produit lorsqu'on est face à beaucoup de sucre inhibe cette hormone de la satiété. Et donc, c'est pour ça bah ça, parfois ça peut arriver de beaucoup manger et après le dessert, t'as encore faim. Alors que avant le dessert, t'étais un peu là, genre, ah, j'en peux plus, mais ah bon, t'as ouais, un petit dessert. Et finalement, tu pourrais encore manger, tu te dis, ou alors t'as faim 1 heure plus tard, enfin des trucs comme ça. C'est le cas classique du petit-déj, tu sais, le petit-déj très sucré. Si tu manges un petit-déj très sucré à 10h, 10h30, 11h, t'es affamé. Et du coup, bah, tu l'avais décrit dans ton expérience lorsque t'as arrêté en fait le sucre. Tu t'es rendu compte que finalement à midi t'avais pas faim. Donc c'est un peu ça, ouais, c'est assez intéressant.
On a quelqu'un parce qu'au dé, au départ on faisait pas on écrivait pas il fallait prendre toutes les combien et on a un client qui l'a acheté. Après il nous a envoyé un message en disant écoutez j'ai pris les premières c'est super j'ai pris 45 minutes après les deuxièmes mais après 45 minutes les troisièmes je pouvais plus. Et en plus, j'arrivais à la maison et j'ai pas déjeuné, j'ai pas dîné. Bah oui, il s'est mis 3, donc 600 calories dans une séance de 1h30 de sport. Donc effectivement, donc ça nous a fait déjà faire conscience qu'il y a beaucoup des gens qui commencent à faire du sport. Ils sont formatés par cette message des marketing de prendre quelque chose tous les 45 minutes. Ou prendre à engorger des boissons sucrées toutes les 15 minutes, comme si les corps il était bête. Je pense, je sais pas de où on a inventé cette histoire qu'il faut manger avant qu'on a faim et boire avant qu'on a soif, comme si les corps il était bête, quoi. Je pense que effectivement quand on commence à s'écouter, il faut attendre, il faut pas attendre qu'on meure de soif, mais on a des petites indications. Qui nous dit déjà, voilà, dans la salive, on sent tout de suite à quel moment il faut voir. Il faut juste s'écouter et se connaître et pas écouter un peu moins les messages de marketing.
Ben ouais, après c'est enfin en soi mettre en avant son produit c'est parfaitement compréhensible, mais c'est vrai qu'on a proposé beaucoup de mensonges en fait, même qui enfin on savait que c'était faux, et je dis on parce que j'ai fait partie de ces marketeurs, donc je voilà, j'ai contribué à ça à une époque en connaissance de cause d'ailleurs, mais ouais, non, c'est sûr que t'as cette dimension là que lorsque tu démarres certaines activités, c'est vrai qu'on te présente certaines choses un peu comme des dogmes. Et au niveau alimentation, c'est vrai que c'est assez fréquent dans les sports qu'on te dise, ouais, toutes les 45 minutes, il faut manger, etc. Donc, et enfin, après, je sais pas si mon expérience vaut quoi que ce soit, d'un point de vue scientifique, mais après, la première fois que je suis allé faire une grande sortie de vélo, bah, je l'ai fait à jeun, de A à Z, parce que c'est déjà ce que je faisais sur la course à pied. Moi, je me suis mis au vélo cette année, hein, donc c'est nouveau pour moi. Mais voilà, j'y suis allé complètement à jeun. Je me suis arrêté pour boire un café au kilomètre 50, et je suis retourné faire 50 km. Voilà. Donc ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de coup de mou, j'ai pas eu de rien. Maintenant, je pars toujours avec un petit truc à manger au cas où. Mais la plupart du temps, quand je fais mes sorties de vélo, après, je suis pas, voilà, je les fais pas à haute intensité parce que pour moi, c'est un sport complémentaire. Mais quelque chose que je fais à relativement faible intensité, si je suis capable de sortir, mais sans rien, on parle pas de beurre de noix, pas de, tu vois, enfin, si j'arrive à sortir 5 heures, je suis pas un surhomme, hein, j'ai rien fait de particulier, je suis pas un sportif de haut niveau, je suis quelqu'un de relativement lambda. Je veux dire, ça montre quand même que clairement, si je peux faire 5 heures d'effort continu sur mon vélo et ne pas avoir faim, c'est que c'est possible, c'est qu'on n'a pas besoin de s'enfiler un truc toutes les 45 minutes. Après, ouais, tout le défi maintenant, c'est de trouver des choses que tu peux manger en fait pour faire, parce que enfin, il faut un apport calorique au bout d'un certain temps, déjà parce que ne serait-ce que faire le plein de micronutriments que du coup là tu n'as pas en fait en stockage. Donc refaire un peu le plein, et ça du coup bah les produits comme ce que tu proposes et d'autres vont l'apporter, mais ce qui est difficile c'est de trouver cet apport. Donc je fais cette pause alimentaire en fait où je me renourris, je fais un peu le plein, mais derrière je veux m'assurer de pas avoir cassé la machine, c'est-à-dire que je veux pas avoir produit trop d'insuline dans ce processus pour limiter ma capacité à utiliser mes propres lipides. Et c'est là que enfin, il manque des produits sur le marché pour pouvoir répondre à ça. C'est-à-dire que, ouais, ok, je peux partir avec un saucisson. Bon, déjà, trouver un saucisson qui n'a pas beaucoup de sucre à l'intérieur, c'est déjà pas facile. Les viandes séchées, c'est dur à trouver. Les viandes séchées que tu citais d'ailleurs tout à l'heure, qu'on trouve beaucoup sur le continent américain, nous, on connaît ça en France, principalement via l'Amérique du Nord, où c'est plutôt le jerky de bœuf. Le jerky de bœuf, en général, c'est un bœuf, en fait, qui est conservé avec du sucre, en fait. Donc, ça reste un produit à dominante protéinée et lipidique, mais on utilise quand même pas mal de sucre pour la conservation, donc dans les sauces, en fait. Donc, tu vois, tout ça, c'est des trucs, c'est difficile à trouver aujourd'hui, et maintenant, qu'est-ce que t'emportes avec toi? Bah ouais, c'est pas toujours facile de choisir, quoi.
Non, complètement. Je pense que sur le vélo, on aime bien avoir toujours quelque chose parce que si tu as la fringale et tu es à 50 ou 60 km de la maison, ou plus que ça, mais on course à pied, bon, tout marche, tout récupère un peu, tout redémarre de tout et tu arrives au point de départ. Mais effectivement, il n'y a pas des. Pour moi, c'est la même logique. Si tu peux courir 3 ou 4 heures à jeun, tu peux faire du vélo 3 ou 4 heures à jeun, quoi. Il n'y a pas de science derrière. Mais je pense que, effectivement, aujourd'hui, on est déjà en révolution, parce que comme ton podcast, et ça fait très bien, on se pose beaucoup plus de questions qu'il y a une dizaine d'années. Où on avalait. Moi, j'étais les premiers. Hein. Moi, j'adorais toutes les tester des produits, les Power Bar, les Clif Bar, les Cytomax, les boissons. Parce que, tout à l'heure, tu as dit pourquoi les gens, quand ils font une course, ils prennent des produits que dans l'entraînement, ils ne prennent pas. Je pense que c'est un côté psychologique. Que tu penses que ça va te donner cette petite plus. Et parfois, on a besoin de sentir qu'on est dans une journée spéciale, dans une course spéciale.
Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai qu'il y a ce facteur psychologique qui est non négligeable. Mais par exemple, enfin là, si je prends cet exemple-là, Alex, enfin en particulier, donc si par exemple, bah moi, tu vois, je t'ai dit au quotidien, je mange des noix. L'idée d'avoir bah des petites pochettes comme ce que tu proposes, bah ça, c'est bon, ça remplit le caractère spécial. Mais par contre, c'est la même chose que ce que je mange d'habitude. Tu vois? Donc ça aurait rien d'exceptionnel en fait. C'est juste c'est un format un peu, enfin au quotidien ça me viendrait pas à l'esprit, mais si j'allais faire une compétition ça serait particulièrement pertinent, tu vois.
Et on met les petits messages à l'intérieur, tu vois, quand tu vois on met les keep going, on réfléchissait sur la longue distance, un petit message qui te dit, voilà, concentre-toi et juste, il faut aller. Et
Ouais, c'est sympa.
c'est un peu ça la clé de la longue distance, quoi. C'est, voilà, keep going. Et de la vie, en réalité. Comme tu dis, maintenant, c'est un peu complexe avec la situation sanitaire. Déjà, on n'a pas eu des événements pour faire connaître la marque. Hein. Et deuxièmement, nos clients, ils ne peuvent pas faire de sport. Un kilomètre. Donc là, on devient addict au Swift. Que bon,
Ouais,
c'est...
faudrait que je m'y mette.
C'est assez intéressant. Je viens de faire 2 fois ces week-ends l'Alpe d'Huez. Ce n'est pas l'Alpe d'Huez, c'est l'Alpe de Swift. Mais
Ouais, l'équivalent.
c'est intéressant comment tu arrives à certains niveaux cardiaques. Là, j'étais à 1h15 à 90. J'ai dit, bon, c'est pas
Ah
mal.
non, c'est bah oui, en fait, en plus, oui, toi, c'est vrai qu'on n'a pas assez souligné, mais en fait, ton entreprise, tu l'as démarré quoi, fin 2019, c'est ça?
Donc, la société était créée fin 2019, mais la
Ouais.
commercialisation, on a commencé en juillet.
Ouais.
Donc, ça fait 3 mois. Plein dedans. On a eu nos machines, ils s'étaient confinés en Italie. Donc, ils sont arrivés un peu juste après les premiers confinements.
Ouais.
On a mis tout en place. Et là, maintenant, c'est l'hiver. Donc, on fait des tests, on fait des nouvelles recettes. On expérimente pas mal et j'espère pouvoir faire des surprises pour 2021 avec avec quelques petits ingrédients qui vont faire sa part pour en micronutriments et qui peut et surtout à niveau gustatif aussi. L'idée c'est, et ça c'est un des avantages d'être fabricant, c'est qu'on peut se permettre de faire des très petites fabrications, des lots, des batchs, des petits batchs avec plusieurs formules, des améliorations continues. On a fait l'enquête sur la vanille au départ, il n'était pas assez prononcé les goûts vanille, donc on a ajusté, on augmente. Et tout ça, c'est des choses que ça me fait hyper plaisir parce qu'on a l'outil à côté. Et en fait, c'est voilà, c'est on vient, on met les mains dans les pâtes, on fait, on refait, on revient, on fait tester aux personnes, on a des retours et on ajuste. Donc ça c'est vraiment c'est un avantage d'être fabricant et on veut garder quoi. On veut garder vraiment cette partie.
Bah, c'est d'autant plus ouais, c'est d'autant plus intéressant parce que t'as vraiment la main sur le produit quoi. Enfin, tu vois, j'imagine un petit peu ce que ça doit faire parce que enfin, ça m'est déjà arrivé de préparer ma propre alimentation sportive, hein, tu sais, faire mes propres barres et compagnie quoi. Et le fait de pouvoir ajuster un peu à la volée, bah ça c'est chouette quoi.
À savoir que dans un futur, ça serait un rêve de personnaliser beaucoup plus ça. Que voilà, tu peux me dire, voilà, moi, Ben, je vais faire un ultra des 4 jours ici et qu'on peut te proposer, voilà, ça c'est le premier jour, on te met un peu plus de lipides, après tu as un apport protéinique un peu plus et qu'on peut ajuster 4 ou 5 produits différents. Ça c'est un peu les rêves.
Ouais. Eh ben, écoute, j'ai plein d'idées à te proposer. Hein. J'ai justement un petit projet que j'ai. Non, je plaisante, mais oui, non, c'est sûr, ça serait vachement intéressant de pouvoir faire ça comme ça. Après, oui, je me doute. C'est vrai que le fait que tu sois une petite structure et que t'es justement, enfin, que tu produises toi-même, c'est sûr que ça t'aide vachement pour faire ce genre de choses. Et qui sait, peut-être que bah tu trouveras justement des athlètes avec qui expérimenter ça. Ça peut être super sympa parce qu'en plus on voit que t'es quand même passionné par ton sujet. Donc, ça serait la bonne opportunité. En tout cas, moi je suis très content d'avoir découvert ton produit et du coup bah, de l'avoir finalement essayé. Et je suis super content que tu sois venu en parler un petit peu avec nous. En plus, tu vois de ton vécu là-dessus, enfin, on voit aussi qu'il y a eu tout un cheminement mental, tu sais, t'es pas juste un mec qui s'est dit, le céto, ça se développe, vas-y, je vais leur vendre un truc, tu vois, t'as eu ton propre cheminement, t'as créé ton produit derrière, moi j'aime bien les gens passionnés comme ça, je trouve ça cool, donc, je te souhaite tout plein de réussite, en tout cas, sur l'aventure Olifat. En tout cas, moi je sais que je pense que j'en emmènerai de temps en temps avec moi sur les expéditions, ça correspond bien à ce que je cherche. Donc, en tout cas, voilà, je te souhaite que ça se développe bien et qu'avec la reprise, je l'espère, des compétitions, peu importe comment d'ailleurs, parce qu'on sait pas trop comment ça reprendra, mais sur l'année qui vient, bah, ça te permettra de décoller un petit peu.
Bon, merci Ben pour l'invitation. C'était voilà, super agréable. C'est mon premier podcast, donc voilà.
Et ben, ravi que t'aies choisi de le faire avec moi.
Merci beaucoup et à bientôt. On va se retrouver dans les chemins, c'est sûr.
Ouais, bah écoute, moi je vais un peu moins vite, hein, du coup, vu que je suis à pied.
J'ai commencé à travailler un tout petit peu.
Ouais. Bah, merci beaucoup, alors.
Bon, merci Ben, à bientôt.
Vous aussi prêtez le serment d'hypocrite en nous retrouvant sur la page Facebook de l'émission et n'hésitez pas à nous poser des questions de santé dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcasts. Et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À bientôt!